Zacharie chapitre 13, verset 9. Et je ferai passer cette troisième partie au feu. Je les affinerai comme on affine l'argent. Et je les éprouverai comme on éprouve l'or. Ceux-là invoqueront mon nom et je les exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Et ils diront, l'Éternel est mon Dieu. Puissions-nous ouvrir nos cœurs pour que l'on puisse entendre le Seigneur nous parler. C'est ma prière. Sous ton voile d'ignominie, sous ta couronne de douleur, n'attends pas que je te renie, chef auguste de mon sauveur, mon œil sous le sanglant nuage qui me dérobe ta beauté à retrouver de ton visage l'ineffaçable majesté. Est-ce que nous pouvons chanter ces paroles d'un cœur rempli d'une assurance que c'est notre expérience? On veut s'assurer de pouvoir chanter ces choses avec pas une seule once d'hypocrisie. Aujourd'hui, frères et sœurs, ce dont j'aimerais parler, ce que je voudrais aborder, c'est directement en lien avec ce que nous avions vu la dernière fois. Nous avons vu que Dieu est amour. Mais comment est-ce que je reçois cette déclaration? Est-ce que je reçois cette déclaration que Dieu est amour pour me permettre de vivre une vie d'indifférence aux exigences saintes et élevées de Dieu? Ou est-ce que je reçois cette déclaration de la réalité, de l'existence et du caractère de Dieu du plus profond de mon cœur qui ressent un besoin du seul salut que Jésus peut m'offrir et qu'il m'a obtenu? Quelle est ma motivation lorsque je reçois les paroles de Dieu? Est-ce pour vivre davantage dans les plaisirs de ce monde sous couvert d'une vie religieuse, ou est-ce parce que j'ai un besoin profond de consolation, de la consolation que seul Dieu peut donner et m'offrir? Et aujourd'hui, en rapport direct avec notre lecture biblique, nous voulons nous concentrer sur une réalité qui est directement reliée à l'amour de Dieu. Je ne veux pas qu'on ait l'impression que c'est séparé, mais puissions-nous avoir l'impression que Dieu nous donne dans sa parole, que c'est bel et bien relié à l'activité de l'amour de Dieu dans le cœur et pour le cœur du croyant qui est repentant, qui ressent sa faiblesse, qui ressent son besoin. Parce que comme on a lu dans Zacharie chapitre 13, il disait « Je ferai passer cette troisième partie au feu, je les affinerai comme on affine l'argent. » Et comme on éprouve l'or, ils invoqueront mon nom, et qu'est-ce qu'il dira? Je les exaucerai et je dirai d'eux, c'est mon peuple. Et ils diront, l'Éternel est mon Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens? Est-ce que le sens est superficiel? Est-ce que le sens m'est donné par Dieu pour me permettre de vivre une vie de nonchalance? Est-ce ça le sens ou parle-t-il ici d'une réalité profonde de purification, de raffinement comme on éprouve l'or et comme on affine l'argent? Qu'est-ce que cela coûte? Quel est le feu qui est nécessaire pour changer la teneur de l'or pour pouvoir en ôter les scories? Réfléchissons attentivement à cette réalité aujourd'hui. C'est ma prière que l'on puisse faire cela. Donner nos cœurs à Dieu pour qu'il puisse animer nos cœurs de la réalité qui est écrite dans sa parole. Et donc, la réalité que j'aimerais suggérer à vos esprits aujourd'hui, c'est que l'amour de Dieu, il fonctionne d'une manière qui apparaît souvent comme un mystère à l'esprit humain. Le vrai amour, pas l'amour sentimental, pas l'amour émotionnel, le vrai amour de Dieu, il fonctionne d'une telle manière qu'il apparaît souvent à l'esprit de l'homme comme un mystère. Et donc nous voulons plonger nos regards dans ce mystère pour voir qu'il s'agit bel et bien de l'amour de Dieu et que nous ne lisions pas nos expériences à travers les lunettes de Satan. Mais que nous lisions nos expériences à travers la vision que nous donne Dieu, le collire que nous donne Dieu à travers son esprit et la compréhension simple et juste de ses paroles. Parce que dans son amour, il permet que ses enfants passent par le feu de l'épreuve. Il permet que ses enfants passent par le feu de l'épreuve, un feu qui semble parfois même entamer le cœur de leur existence. Et pourquoi? Parce que de la même manière que le fondeur fait chauffer l'or à une température extrême pour fondre l'or, afin de purifier l'or, Dieu, afin de nous purifier de nos défauts, de nos péchés, de nos mauvaises, terriblement mauvaises habitudes, a besoin de faire monter la température. Pas simplement pour faire rôtir, pas simplement pour faire brûler, pour faire fondre l'or et l'argent afin de le purifier. Quand Dieu vous fait fondre, il n'y a pas de place à se tromper. Vous savez que c'est l'expérience qui est décrite dans la parole de Dieu. Mais ça ne suffit pas, nous voulons aller dans les profondeurs de ce mystère qui nous est manifesté dans la parole de Dieu, de sorte que ce n'est plus un mystère quand nous comprenons les choses spirituelles avec un jugement spirituel, spirituellement comme c'est écrit. Et donc parce que c'est son activité, telle est son activité, l'enfant de Dieu, celui qui a un esprit soumis, qui a un esprit contrit et brisé, il a besoin d'entendre son Père céleste lui parler dans sa parole et lui expliquer les choses qu'il ne pourrait jamais comprendre autrement. Parce que si nous essayons de comprendre les choses qui nous arrivent et à travers lesquelles nous passons, autrement que par l'inspiration, nous serons trompés. Nous serons jetés dans des illusions, nous serons menés par le bout du nez par un autre. Et donc nous voulons comprendre, nous voulons demander au Seigneur d'illuminer nos esprits pour comprendre le feu du fondeur. Allons maintenant dans Malachie, chapitre 3, versets 1 à 3. Et là, on nous parle directement du retour de Jésus-Christ. Et en parallèle, directement lié à ce retour imminent, voilà quelle est l'activité dont il est question et dans laquelle Dieu s'engage pour nous et avec nous si nous coopérons. Malachie 3, verset 1. Voici, je vais envoyer mon messager et il préparera la voie devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et l'ange de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, a dit l'Éternel des armées. Et qui pourra soutenir le jour de sa venue et qui pourra subsister quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur et comme la potasse des foulons. Il sera assis fondant et purifiant l'argent. Il purifiera les fils de Lévi et les affinera comme on affine l'or et l'argent. Et ils seront à l'Éternel et ils présenteront des offrandes dans la justice. Et donc dans ce moment où Jésus vient, vous remarquerez ici qu'il s'agit d'une venue toute particulière parce que il vient où ça? Il entre dans son temple. Et notre compréhension de Daniel 8, verset 14 et de toutes les réalités connectées à cet accomplissement prophétique qui a eu lieu en 1844, nous savons que Jésus intercède aujourd'hui en notre faveur dans le lieu très saint du temple céleste, du sanctuaire céleste. Et qu'il est engagé dans l'œuvre du jugement investigatif. Et dans cette œuvre du jugement investigatif où nous apprenons qu'il nous examine, ici nous apprenons également qu'il est comme le fondeur et qu'il s'assoit et qu'il fond et purifie les fils de Lévi. Parce que les chrétiens, sous la dispensation chrétienne, les croyants sont tous des prêtres. Et donc ici, ils sont identifiés comme les fils de Lévi parce que ils sont tous engagés dans une activité dans laquelle ils s'offrent eux-mêmes comme sacrifice agréable à Dieu. Mais Dieu reçoit leurs offrandes à travers les mérites de Jésus-Christ, parce qu'ils ne sont pas parfaits, ils sont pécheurs, mais ils lui offrent leurs offrandes de repentance, de gratitude, de réjouissance, mais ce sont des offrandes qui sont souillées et que Jésus prend et qu'il offre au Père à travers l'encens de ses propres mérites. Mais Dieu a besoin de nous purifier parce que il veut nous recevoir saints et pur et purifié et parfait dans son royaume éternel. Et c'est pour cette raison que nous lisons ici qu'il est engagé dans cette œuvre de purification. Il sera comme le feu du fondeur et comme la potasse des foulons. Comme celui qui nettoie les habits avec des produits chimiques puissants, comme celui qui fait fondre l'or dans le chaudron pour le séparer, le purifier de ses scories, il s'assiera de la même manière alors qu'il intercède en notre faveur, en même temps il est engagé dans cette œuvre où il nous fait passer par le feu. Et j'aimerais tout de suite lire une citation de l'esprit de prophétie ici dans le commentaire biblique à la page 849 jusqu'à la page 850, où ce passage de Malachie, versets 2 et 3 que nous venons de lire, est développé. Je lis. Dans ce passage, on nous décrit un processus purificateur que le Seigneur des armées mène à bien dans le cœur des hommes. Le processus est extrêmement éprouvant pour l'âme. Mais ce n'est que par ce moyen que les scories peuvent être éliminées. Il est nécessaire que nous endurions les épreuves, car par elles, nous nous approchons de notre Père céleste en obéissant à sa volonté pour pouvoir lui présenter une offrande dans la justice. Vous voyez ce qui nous est présenté ici? Pour que l'on puisse lui présenter cette offrande de nous-mêmes dans la justice, sans aucune scorie, sans aucune tache, sans aucune imperfection, il mène à bien ce processus purificateur, ce processus de raffinement, par lequel il purifie nos cœurs. Un processus qui est extrêmement éprouvant pour l'âme. Ce sont des choses qu'on veut relever parce que si nous sommes les enfants de Dieu, s'il est notre Père, que nous lisions dans Zacharie chapitre 13 verset 9, il dit « C'est ici mon peuple » et eux ils disent « L'Éternel est mon Dieu ». Si l'Éternel est vraiment mon Dieu, s'il est vraiment mon Père, si je me soumets vraiment à lui, s'il peut vraiment dire de moi que je suis son peuple, que je fais partie de son église, alors c'est cette expérience qui devrait être la mienne. Si cette expérience-là n'est pas mon expérience, alors mon cœur doit trembler. Mon cœur doit trembler parce que il me reste encore à être amené à travers le feu. Donc, nous comprenons maintenant. Nous comprenons le sens des paroles qui sont tout à travers l'Écriture. Il s'agit de passer par ce feu qui est extrêmement éprouvant pour l'âme. Si je ne suis pas éprouvé, c'est que je ne suis pas passé par le feu. Si je ne suis pas passé par le feu, il ne peut pas dire de moi, c'est mon peuple. Mais si je veux faire partie de son peuple, alors il faut que je casse. Il m'appelle à tomber sur le rocher et à lui demander, à le supplier, donne-moi cette expérience, Seigneur. Ce processus par le feu. Et quand vous y serez, ce sera terriblement, extrêmement éprouvant pour l'âme, mais vous aurez cette consolation à l'intérieur, qu'il est mon Père, l'Éternel est mon Dieu. Je continue. Le maître sait où nous devons être purifiés pour son royaume céleste. Il sait, il voit notre caractère, il lit chaque aspect de notre caractère, de qui nous sommes, de ce qui nous définit, de ce qui nous motive. il voit ce qui doit être purifié pour son royaume céleste. Mais il ne nous abandonnera pas dans la fournaise jusqu'à ce que nous soyons complètement consumés, comme celui qui raffine et purifie l'argent. Il contemple ses enfants et observe le processus de purification jusqu'à ce qu'il perçoive son image réfléchie en nous. C'est ça qu'il veut. Il veut faire monter la température jusqu'à ce qu'il nous ait tellement purifié qu'il voit de l'or pur, qu'il voit quoi ? La foi de Jésus. Que notre foi, notre caractère a été tellement éprouvé qu'il peut maintenant percevoir son image réfléchie en nous. Comme s'il regardait, qu'il se penchait sur un ruisseau dont l'eau est maintenant devenue écarlate, absolument pur, sans l'ombre d'une impureté, et qu'il voit son visage parfaitement reflété sur l'eau. Il veut voir son image reflétée sur ce métal qui est encore souillé et mélangé aux impuretés. Je continue. Bien que fréquemment nous sentions que la flamme de l'affliction s'allume autour de nous et que parfois nous craignions d'être entièrement consumés, bien que ça soit notre expérience, que l'on sente cela, qu'on ait l'impression qu'on est séparé de Dieu par ce feu qui nous fait nous sentir absolument accablé et découragé, il est écrit, la bonté de Dieu pour nous est aussi grande dans ces moments-là que lorsque notre esprit est libre et que nous triomphons en lui. La fournaise doit purifier et raffiner, mais pas consumer et détruire. Dans sa providence, Dieu veut nous éprouver pour nous purifier comme les fils de Lévi, afin que nous lui offrions une offrande dans la justice. Donc voilà comment l'esprit de prophétie caractérise ce passage, cette réalité qui est exprimée dans Malachie. Et donc, si vous vous souvenez ce qu'on vient de lire au tout début, ces épreuves, il est nécessaire que nous endurions les épreuves, que nous passions par ces épreuves-là, car c'est par elles que nous nous approchons de notre Père céleste. Quel est le but de ces épreuves? C'est que nous soyons rapproché de notre Père céleste, que nous fassions une expérience profonde et inoubliable d'une communion avec lui qui est sans pareil. C'est ce que nous avions lu la dernière fois, vous vous souvenez ? Un amour sans pareil. Il a un amour qui est sans pareil. Il m'a dit, je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est pourquoi je t'ai prolongé ma bonté. Et nous lisons que lorsque nous traversons ces expériences où nous avons l'impression d'être séparés de Dieu, où nous avons l'impression que jamais nous ne parviendrons à surmonter ces travers dans notre vie, dans notre caractère, dans notre expérience, à travers toutes ces choses-là, sa bonté envers nous est la même. Il a dit, je t'ai aimé d'un amour éternel et je t'ai prolongé, J'ai prolongé envers toi ma bonté. Et à travers ces expériences, il se prolonge à nous et nous le trouvons dans le feu. Et donc nous voulons continuer maintenant, nous voulons poser la question. Nous avons appris qu'il s'agit d'un processus de purification et de raffinement qu'il mène à bien dans le cœur des hommes. Et donc nous posons la question maintenant, quelle est la nature ? Nous savons que c'est un processus purificateur, mais quelle est la nature de ces épreuves-là qui sont pour nous ce que le feu est pour l'or ? Nous allons dans Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3, versets 11 et 12. Où ici, Jean-Baptiste, il disait ceci, verset 11. « Pour moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de lui porter les souliers. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Il parlait ici de Jésus qui viendrait après Jean-Baptiste et il disait, « Moi, je vous baptise en vue de la repentance. Je vous baptise d'eau en vue de la repentance. Mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Cela qualifie ce que nous avions lu ici, juste avant, dans Malachie. Il s'agit d'un processus purificateur à travers lequel il nous purifie pour que l'on puisse lui présenter une offrande dans la justice, une offrande de nous-mêmes dans la justice, jusqu'à ce qu'il puisse percevoir en nous son image réfléchie en nous. Et ici, nous lisons qu'il nous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Nous allons plus loin dans Matthieu chapitre 20, où Jésus a lui-même qualifié ses paroles quand la mère de Jean et de Jacques, les fils de Zébédée, lorsque elle est venue avec ses fils, demander quelque chose à Jésus. Il a répondu ces choses-là. Matthieu chapitre 20, versets 20 à 23. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de lui avec ses fils et se prosterna pour lui demander quelque chose. Et il lui dit, « Que veux-tu ? » Elle lui dit, « Ordonne que mes deux fils qui sont ici soient assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. » Mais Jésus répondant leur dit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ? » Ils lui dirent, « Nous le pouvons. » Et il leur dit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe et que vous serez baptisés du baptême dont je serai baptisé. Mais d'être assis à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Cela ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a destiné. » Donc nous savons que Jean et Jacques, ils voulaient la première place, ils étaient en train de demander à Jésus de les placer au plus haut dans le royaume à venir qu'ils s'imaginaient aller bientôt s'établir sur la terre, tel un royaume glorieux et terrestre. Mais il n'y avait pas que cela dans leur requête. Elle n'était pas entièrement tachée de l'égoïsme, quoiqu'elle l'était en grande partie. Et pour élargir cela, nous voulons lire Une citation de l'Esprit de prophétie dans Jésus-Christ, à la page 541, au paragraphe 5. Et là, c'est directement en rapport avec ce que nous venons de lire. Et après que la mère de Jacques et de Jean lui ait fait cette requête, il est écrit ceci. Jésus les traite avec douceur, s'abstenant de leur reprocher leur égoïsme qui leur faisait désirer d'obtenir un traitement préférentiel. Il lit leur cœur. Il sait l'attachement profond qu'ils ont pour lui. Leur amour n'est pas une simple affection humaine. C'est le trop-plein de son amour rédempteur qui a débordé sur eux, mais qui a été souillé en passant par le canal humain. Vous voyez un aspect très formidable ici dans cette déclaration ? Jésus, il voit leur requête, mais il ne les reproche pas, il les traite avec douceur parce qu'il sait que leur expression qui est si impure, qui est si imparfaite, qui est si entachée de leur esprit mondain, mais il voit que leur amour n'est pas une simple affection humaine. Il lit leur cœur. Il lit nos cœurs. Il sait que leur amour, c'est le trop-plein de son amour rédempteur qui a débordé sur eux, mais qui a été souillé en passant par le canal humain. Il voit, il discerne que leur amour, il est taché, mais que cela vient d'une motivation intérieure de répondre à son amour. Et qu'est-ce qu'il fait ? Vous allez voir, c'est directement en relation avec ce que nous sommes en train de voir ici. Qu'est-ce qu'il fait ? Au lieu de réprimander, parce que leur amour est si entaché, bien qu'il soit le sien qui est débordé sur eux, au lieu de réprimander, il veut approfondir et purifier. Il leur dit, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Ça continue après. Il se rappelle alors les paroles mystérieuses par lesquelles il avait annoncé son épreuve et ses souffrances, mais lui répondent malgré tout avec assurance, nous le pouvons. Il considérait comme le plus grand honneur de prouver leur loyauté en partageant le sort de leur Seigneur. Vous voyez la mentalité de Dieu ici, de l'amour rédempteur de Dieu? Quand cet amour rédempteur de Dieu déborde sur nous, mais qu'il est souillé parce qu'il est passé par le canal imparfait de l'humain, qu'est-ce qu'il fait? Il veut approfondir et purifier. Et donc, que fait-il lorsqu'il voit cet amour, lorsqu'il voit cet or, mais qu'il y a tout plein de scories attachées à cet or, mélangées à cet or, presque indissociablement mêlées à cet or, à cet amour qui est son amour rédempteur? Qu'est-ce qu'il fait? Il va approfondir cet amour en le purifiant. Il s'assoit comme celui qui affine l'argent et qui éprouve l'or. Ça continue. Elle cite encore ce que nous venions de lire. Il est vrai que vous boirez ma coupe et que vous serez baptisés du baptême dont je serai baptisé, dit-il, voyant se dresser devant lui, au lieu d'un trône, une croix, avec pour ses seuls compagnons deux malfaiteurs, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Vous voyez la terrible contradiction de l'amour de Dieu qui ne réprimande pas, mais qui voit la croix s'élever devant les yeux de son esprit. Et qu'est-ce qu'elle avait demandé? Qu'est-ce qu'elle avait demandé, la mère de Jacques et de Jean? Elle a dit, ordonne que mes deux fils qui sont ici soient assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. Et il leur dit, vous ne savez pas, vous ne réalisez pas ce que vous demandez. Est-ce que vous êtes prêts à traverser mon baptême? Et quand il a vu son baptême, quand il a dit, il est vrai que vous boirez ma coupe et que vous serez baptisés du baptême dont je serai baptisé, il a vu se dresser devant lui, au lieu d'un trône, comme ils l'espéraient, eux, une croix, avec pour ses seuls compagnons deux malfaiteurs, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. C'était ça, l'établissement de son royaume. C'était l'accomplissement de son amour rédempteur. Et c'est ça qu'il veut nous faire comprendre. Au lieu de réprimander, il entend cet amour qui est complètement souillé des mécompréhensions, des préjugés, des mauvaises doctrines, des mauvaises interprétations. Mais s'il y a l'amour là-dedans, il ne réprimande pas, il dit, pouvez-vous boire ma coupe? Est-ce que vous pouvez boire ma coupe? C'est ça l'amour de Dieu. Il veut approfondir et purifier l'amour qui a débordé sur nous de son amour. Et donc il a eu cette vision et ensuite il est écrit quant à Jean et Jacques, ils allaient partager les souffrances de leur maître. Parce qu'il a dit, oui, il est vrai que vous boirez ma coupe. Parce qu'il voyait, dans l'avenir que Jean et Jacques allaient partager les souffrances de leur maître. L'un d'eux serait le premier à périr par l'épée, Jacques. L'autre allait endurer plus longtemps la peine, l'opprobre, la persécution. Donc Jésus ne les reprend pas, mais il met leur amour à l'épreuve pour le rendre plus fort et plus profond. Et il y a aussi une autre citation en plus qui vient toujours de Jésus-Christ à la page 542, paragraphe 4, où il est écrit: celui qui se tiendra le plus près de Christ, parce qu'ils avaient demandé d'être assis à sa gauche et à sa droite dans son royaume, et il est écrit ici, en parallèle à cela, celui qui se tiendra le plus près de Christ sera celui qui aura été le plus profondément imprégné de son esprit de sacrifice et d'amour. De cet amour qui ne se vante pas, qui ne s'enfle point d'orgueil, qui ne cherche point son intérêt, qui ne s'aigrit point, qui ne pense point à mal. L'amour qui pousse le disciple, comme il a poussé notre Seigneur, à tout donner, à vivre, à travailler, et à se sacrifier, même jusqu'à la mort, pour sauver l'humanité. Et maintenant, on veut élargir ce qu'il a dit lorsqu'il disait, il parlait du baptême dont il devrait être baptisé. Quel était ce baptême? Parce qu'il est écrit que c'est lui qui baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et quel a été ce feu, ce baptême dans son expérience? Quel a été le baptême ultime de Jésus-Christ? Parce que si vous faites bien attention aux déclarations que nous allons lire maintenant, vous allez voir que bien que Jésus ait été baptisé par Jean dans le Jourdain, qu'il a été immergé sous l'eau, de la même manière que nous passons par le baptême, il a aussi dû traverser un autre baptême. Et c'était exactement la même chose pour les disciples, notamment Jean et Jacques, et c'est la même chose pour nous. Parce que lorsqu'il est écrit qu'il nous baptisera du Saint-Esprit et de feu, il n'est plus question ici du baptême par l'immersion. Il est question du processus de purification. C'est cela le baptême par le feu. C'est le baptême à travers lequel il approfondit l'amour de ceux qui l'aiment et qui veulent le servir, mais qui sont encore imparfaits et souillés par des défauts de caractère. On se tourne pour ça dans le livre « Les souffrances, la mort et le glorieux retour de Jésus-Christ ». Et ce que je vais faire, c'est que je vais lire quelques petits passages ici et là pour retenir le plus important dans ce qui est écrit, pour que l'on puisse voir quel était ce baptême que Jésus a dû traverser et qui nous donne un ordre d'idée du baptême auquel on peut s'attendre pour nous-mêmes, dans notre expérience, alors que nous offrons notre amour à Jésus, mais qu'il voit que cet amour est encore souillé et imparfait. Je lis ici à la page 5, commençant au paragraphe 2. Et dans votre temps, vous pouvez lire, c'est le chapitre dans le jardin, le premier chapitre. Et toute cette réalité est exprimée en long en large dans ce chapitre. Je vous y réfère. Jésus s'était souvent rendu à Gethsémané avec les 12 pour y méditer et prier. Mais jamais il n'avait visité ce lieu avec le cœur aussi plein de tristesse que pendant la nuit qu'il fut trahi. Il avait sérieusement conversé avec ses disciples, mais en approchant du jardin, il devint étrangement silencieux. Les disciples étaient perplexes et regardaient avec anxiété son visage, espérant lire une explication du changement survenu chez leur maître. Ils l'avaient souvent vu accablé, mais jamais aussi profondément triste et silencieux. Comme il avançait, son étrange tristesse s'accrut. Pourtant, il n'osait plus le questionner. Son corps s'inclinait comme s'il allait tomber. Les disciples regardèrent vers le lieu habituel de sa retraite comme pour l'inviter à aller s'y reposer. En entrant dans le jardin, il dit à ses compagnons, « Asseyez-vous ici tandis que je m'en irai là pour prier. » Choisissant Pierre, Jacques et Jean pour l'accompagner, il pénétra plus avant dans l'intérieur du jardin. Plus loin, maintenant chaque pas que faisait le Sauveur était accompagné d'un pénible effort. Il gémissait tout haut comme écrasé d'un poids insupportable. Toutefois, il s'abstint d'effrayer ses trois compagnons en leur donnant une idée complète de l'agonie qu'il allait souffrir. Deux fois, ils l'empêchèrent de tomber sur le sol. Jésus sentit qu'il devait être encore plus seul et dit à ses trois disciples choisis, « Mon âme est saisie de tristesse jusqu'à la mort. Demeurez ici et veillez avec moi. » Ses disciples ne l'avaient jamais entendu parler d'un ton si triste. Son corps était convulsivement agité et son pâle visage exprimait une angoisse indescriptible. Il s'éloigna à une faible distance de ses compagnons, pas si loin pourtant qu'ils ne pussent le voir et l'entendre. Il tomba, prosterné la face contre terre. Il était dominé. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qu'il traversait? Il était dominé par la terrible crainte que Dieu ne lui retirât sa présence. Il se sentait comme séparé de son Père par un océan de péché si large, si profond et si sombre que son esprit frémissait d'effroi. Il se cramponnait convulsivement au sol froid et insensible, comme pour ne pas être jeté plus loin de Dieu. Les froides rosées de la nuit tombaient sur son corps prosterné, mais il n'y faisait pas attention. De ses lèvres pâles s'échappa ce cri amer. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Est-ce que vous voyez le baptême qu'il a dû boire? Nous avons ici la description de son baptême par le feu. Ce n'était point la crainte des souffrances physiques qu'il allait bientôt endurer qui plongeait le Fils de Dieu dans une telle agonie. Il portait la peine de la transgression humaine et frémissait sous le regard irrité du Père. Il ne devait pas employer son pouvoir divin pour échapper à cette agonie, mais comme homme, il devait porter les conséquences du péché de l'homme et l'indignation de Dieu envers ses sujets désobéissants. Il craignait de ne pouvoir dans sa nature humaine endurer le prochain conflit avec le prince de la puissance des ténèbres. Dans ce cas, la race humaine serait perdue sans espoir. Satan serait le vainqueur et la terre deviendrait son royaume. Les péchés du monde pesaient de tout leur poids sur le Sauveur et le clouaient au sol. Et la colère de Dieu à cause du péché semblait briser sa vie. Et ensuite, il se levait parce qu'il cherchait la compagnie des disciples, la compagnie, la sympathie humaine. Il avait ce profond désir d'être compris dans sa souffrance. Il allait les voir, mais comme nous savons, il les a trouvés endormis. Ensuite, nous lisons, une deuxième fois, Jésus fut saisi par une angoisse surhumaine et retourna chancelant et épuisé au lieu de son premier combat. De nouveau, il est prosterné sur la terre. La souffrance est plus grande même qu'auparavant. Vous voyez, petit à petit, la température augmente dans son expérience. Mais son expérience, quelle est son expérience? Parce que Jean et Jacques, ils auraient à boire, nous lisons dans ses propres paroles, ils auraient à boire sa coupe. Et ils auraient à être baptisés de son baptême. Mais son baptême était supérieur à toutes les autres expériences qui pourraient caractériser le baptême de ceux qui croient en lui et qui le servent et qui l'aiment. Je continue. Les cyprès, les palmiers étaient les témoins silencieux de son angoisse. De leurs branches feuillues, une épaisse rosée tombait sur son corps abattu, comme si la nature eût pleuré sur son auteur, luttant seul contre les puissances des ténèbres. Peu de jours auparavant, il se tenait debout comme un cèdre, puissant au sein de la tempête d'opposition qui se déchaînait furieuse sur lui. Les volontés obstinées, les cœurs méchants et hypocrites de ses adversaires se démenaient en vain pour le confondre et l'abattre. Il demeurait invincible dans sa divine majesté. Mais maintenant, il est semblable à un roseau froissé, battu et brisé par la tempête. Et rappelez-vous, lorsque notre amour, lorsque nous exprimons à Dieu un amour et qu'il ne nous reprend pas, qu'il ne nous réprimande pas pour notre amour qui est souillé parce qu'il a traversé le canal humain qui est nous-mêmes, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut approfondir et purifier cet amour. Et donc ce qu'il a traversé ici, c'est écrit pour que nous nous identifions à lui. Est-ce que je traverse le feu? Est-ce que je traverse l'épreuve? Alors il dirige mes regards vers lui et il dit, peux-tu boire ma coupe? Après ils lui ont dit, nous le pouvons. Nous pouvons boire ta coupe. Et dans sa miséricorde et sa tendresse, parce qu'il nous regarde avec douceur et qu'il ne nous reprend pas directement, il leur a dit, il est vrai que vous boirez ma coupe. Mais en réalité, quoi qu'ils aient pris part à sa coupe, lui, il a bu la lie de la coupe. La lie, c'est ce qu'il y a au fond, c'est ce qui est de plus amer. Si vous avez un breuvage amer, le plus amer va venir se coller au fond. Et c'est lui qui prend cela. Et nous lisons ici cette expérience où il boit la lie pour rendre possible pour nous de boire sa coupe. Est-ce que vous voyez le parallèle important que nous... C'est important que nous discernions quel est le sens de ces choses. Que nous sachions que lorsque nous buvons cette coupe du baptême par le feu, nous buvons sa coupe. Mais lui, il a bu plus encore. Il a bu plus encore pour qu'il n'y ait pas un seul millilitre de cette coupe que nous ayons à boire qui n'ait pas été bu par lui-même. Il a tout bu et ensuite il nous donne cette coupe en l'adoucissant par sa grâce. Je continue. Quelques heures auparavant, il avait répandu son âme dans de sublimes discours, proclamant à ses disciples son unité avec le Père et plaçant son Église élue sur les bras divins, dans un langage qui respirait une divine autorité. Maintenant, sa poitrine laisse échapper des cris étouffés d'angoisse. Il s'attache au sol humide comme pour en être soulagé. Les paroles du Sauveur parvinrent aux oreilles des disciples assoupis. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe passe loin de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Cette fois, l'angoisse du Fils de l'homme fut si violente qu'elle fit jaillir le sang de ses pores. Et ensuite, il revient voir les disciples et nous lisons, sa présence les réveilla et ils le regardèrent avec terreur car sa face était tachée de sang et exprimait une agonie morale qui leur était incompréhensible. Mais vous voyez, cette agonie morale leur était incompréhensible et donc lorsque vous traversez cette agonie morale, dans votre petite sphère d'expérience, elle est compréhensible pour lui. Et il la comprend. Et il nous offre du secours. Cette fois, il ne leur parla pas. Mais s'éloignant de nouveau, il retourna à sa retraite et tomba prosterné, presque anéanti par d'accablantes ténèbres. Et là, nous avons le summum de cette déclaration où nous voyons, il y a un terme qui va être donné qui montre que c'était bel et bien cette expérience qu'il traversait, à laquelle il faisait allusion quand il a parlé du baptême dont il devait être baptisé. Je lis. L'humanité du Fils de Dieu tremblait à cette heure suprême. Le moment solennel était venu qui devait décider des destinées du monde. Les armées célestes en attendaient l'issue avec un intense intérêt. Le sort de l'humanité vacillait sur la balance. Christ aurait pu, alors encore, refuser de boire la coupe réservée aux coupables. Vous voyez un peu, ça commence à venir là. Quelle est cette coupe qu'il a dû boire? Quelle est cette coupe qu'il a dû boire? Christ aurait pu alors encore refuser de boire la coupe réservée aux coupables. Il aurait pu essuyer de son front la sueur de sang et laisser les hommes périr dans leur iniquité. Vous voyez qu'il avait un choix. Il avait le choix de nous laisser périr. Il avait le choix de dire « Non, je fais pas ça pour eux. Non !» C'était les tentations qui l'accablaient, avec tous les péchés des hommes. Le Fils du Dieu infini boira-t-il l'amer breuvage de l'humiliation et de l'agonie? C'est ce qui était écrit juste avant. Le sort de l'humanité vacillait sur la balance. Pourquoi? Parce que la question se posait de savoir si Jésus allait accepter de passer par le feu. Et pas seulement le feu, mais le sang. C'est très important que l'on relève ces choses-là. Que l'on relève ces choses-là. Qu'il ne manque pas une seule partie, une seule once d'expérience que nous traversons dans son expérience. La seule différence, c'est que nous ne traversons pas toute son expérience. Toutefois, il a traversé toute notre expérience. Donc il n'y a pas du tout de place pour le découragement. Je continue. L'innocent souffrira-t-il les conséquences du péché et de la malédiction divine pour sauver les coupables? Ces paroles tombèrent des lèvres pâles et tremblantes de Jésus. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe passe loin de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » 3 fois il prononça cette prière. 3 fois l'humanité de Jésus hésita devant le sacrifice suprême. Mais maintenant, l'histoire de la race humaine se présente devant le Rédempteur du monde. Il voit que si les transgresseurs de la loi sont laissés à eux-mêmes, ils doivent périr sous la colère de Dieu. Il voit le pouvoir du péché et l'absolue incapacité de l'homme à se sauver lui-même. Les malheurs et les lamentations d'un monde condamné montent à ses oreilles. Il voit le sort qui menace le monde et sa décision est prise. Il sauvera l'homme à tout prix. Il accepte le baptême de sang, pour que des millions d'hommes qui périssent aient par lui la vie éternelle. Il avait quitté les célestes parvis où tout est pureté, bonheur et gloire pour venir sauver la brebis perdue, le monde déchu par la transgression. Il n'abandonnera pas la mission qu'il a choisie. Ayant arrêté sa décision et atteint la crise finale, il tombe à demi-mort sur le sol de dessus lequel il s'était un instant relevé. Le Sauveur a réellement été tout seul à fouler au pressoir, et de tout son peuple, personne n'était avec lui. Donc nous voyons le baptême de sang que Jésus a traversé pour nous et qui nous encourage dans nos expériences. Parce que nous lisons dans Hébreux chapitre 5 que, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et donc, lorsque nous traversons ces choses, Dieu veut approfondir notre amour. Il veut purifier notre amour. Il veut nous faire ressortir, purifier. Et dans Apocalypse 7, versets 13 à 14, nous lisons d'un peuple des 144 000 qui sont sortis de la grande tribulation et qui ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Et ceux qui seront finalement scellés en leur front, ces 144 000-là, ce sont ceux qui ont traversé ce processus purificateur et qui, à travers ce processus purificateur, ont lavé leur robe, ont lavé leur caractère dans le sang de l'agneau. Et nous venons de lire, il a traversé ce baptême de sang pour que nous n'ayons pas à boire la coupe qui reviendra aux coupables, mais pour qu'il puisse nous donner une coupe à laquelle est mélangée la miséricorde. de sorte que dans cette vie, il nous fait passer par le feu pour que nous puissions nous offrir finalement à lui parfait et sans tâche. Et donc ces 144 000-là ont traversé un processus de purification pour être transformés à l'image de Christ et pour être rapprochés de leur Père céleste. Et dans, j'aimerais lire dans Premiers Écrits, pour conclure notre méditation, Premiers Écrits à la page 88, au paragraphe 1 et 2. Parce que ici, l'esprit de prophétie nous donne un contraste qui nous permet de réaliser la signification et la portée de l'expérience que nous traversons lorsque nous sommes soumis à ce feu du fondeur, à ce baptême de feu. Je lis ici. Ellen White dit « Il me fut montré un train roulant avec la rapidité de l'éclair. L'ange me dit de bien l'observer. Je fixais donc mes yeux sur ce train. Il me semblait que le monde entier y avait pris place, qu'il ne restait plus un seul homme ailleurs. L'ange me dit, ils sont liés en bottes pour être brûlés. Puis il me fit remarquer le chef de train qui avait l'air majestueux et que tous les voyageurs admiraient et révéraient. Je me demandais qui il était et je posais la question à l'ange. Il me répondit, c'est Satan lui-même. C'est lui qui conduit le train sous la forme d'un ange de lumière. Donc c'est lui, Satan, qui conduit le train du monde sur lequel presque tous les hommes se sont embarqués. C'est lui qui conduit le train sous la forme d'un ange de lumière. Il a rendu le monde captif. Tous ont cru à sa puissance séductrice, au mensonge. C'est pourquoi ils seront perdus. Celui qui est à côté de lui, le plus grand après lui, c'est le mécanicien. Et d'autres sont ses agents qui s'occupent de différents travaux selon ses besoins. Ils vont ainsi tous à la perdition avec la rapidité de l'éclair. Je demandais à l'ange si vraiment tout le monde était là. Parce qu'elle a vu presque tout le monde qui était à bord de ce train qui se précipitait avec la rapidité de l'éclair à la perdition. Et donc elle a demandé à l'ange si vraiment tout le monde était là. Il me dit de regarder dans la direction opposée. Je vis alors un petit groupe qui suivait un étroit sentier. Tous semblaient être parfaitement unis, liés ensemble par la vérité, en bottes ou en groupe. L'ange me dit, le troisième ange les scelle. Il les rassemble en bottes pour le grenier céleste. Ce petit groupe avait l'air rongé par les soucis, comme si tous étaient passés par de sévères épreuves et des luttes terribles. Mais il semblait que le soleil sortait derrière un nuage et illuminait leur visage de sorte qu'ils paraissaient triomphants, comme s'ils étaient sur le point de gagner la victoire. Donc elle a reçu une vision où elle a vu tout le monde qui allait avec la rapidité de l'éclair à la perdition, et ensuite elle a vu ce petit groupe qui suivait un étroit sentier. Et tous ceux dans ce groupe semblaient être parfaitement unis, liés ensemble par la vérité, en bottes, ou en faisceau, ou en groupe. Ils étaient liés ensemble en groupe, ici et là, et ils étaient tous parfaitement unis par les liens de la vérité. Et ensuite, l'ange lui a dit, le troisième ange les scelle, il les rassemble en bottes pour le grenier céleste. Et dans cette expérience où ils sont rassemblés en bottes, nous lisons que dans cette vision, elle les a vus, qu'ils avaient tous l'air rongés par les soucis, comme si tous étaient passés par de sévères épreuves ou des luttes terribles. Et donc c'est celle-ci l'expérience du peuple de Dieu, de ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille, comme c'est écrit dans Apocalypse chapitre 14. Et donc nous avons besoin de nous assurer que nous appartenons à ce peuple, que nous sommes bel et bien en train de passer par le feu. Et si nous passons par le feu, alors nous avons une merveilleuse assurance qui est écrite, encore une fois, dans Zacharie. Zacharie, chapitre 13, verset 9. Lisons même verset 8. « Et il arrivera dans tout le pays, dit l'Éternel, que deux parties seront retranchées et périront, mais la troisième y demeurera de reste. » Et je ferai passer cette troisième partie au feu, je les affinerai comme on affine l'argent, et je les éprouverai comme on éprouve l'or. Ceux-là invoqueront mon nom, et je les exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et ils diront, l'Éternel est mon Dieu. Lorsque nous traverserons ces épreuves-là, où la température augmente et que nous fondons à l'intérieur de nous, il dit, ceux-là invoqueront mon nom et je les exaucerai. Je dirai, c'est ceux-là qui sont mon peuple. Et ils diront, l'Éternel, je l'ai choisi, je n'ai plus d'autre espérance, l'Éternel est mon Dieu. Donc puissions-nous ne jamais oublier, frères et sœurs, que Dieu est amour et que son amour est tout aussi grand envers nous lorsque nous traversons notre baptême de feu que lorsque notre expérience est plus favorable. Comme il est écrit, l'épreuve de notre foi est plus précieuse que l'or périssable. Et par elle, il nous fait connaître et réaliser Jésus. Il nous approche du cœur du Père. Et comme c'est écrit dans Job, chapitre 23, verset 10, « Mais il connaît la voie que je suis. Quand il m'aura éprouvé, j'en sortirai comme l'or. » Puisse cela être la prière de notre cœur à mesure que nous passons par le feu avec Jésus. Amen.